RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
Le Super Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Arnaud Souk.
L'afterfoot avec ce soir Daniel Riolo et Jérôme Roten. Tiens, dans quelques minutes, on sera avec Jean-Pascal Gaillan, économiste du sport et professeur à l'Université du Maine, pour parler. Lui, il milite en tout cas de la création d'une Super Ligue européenne pour regrouper les meilleurs clubs d'Europe, une ligue fermée. Voilà, je suis sûr que ça va susciter le débat.
Je sais pas s'il milite pour ça.
Ouais, en tout cas, il en parle. Voilà,
il en parle.
Il prophétie un petit peu, quoi. C'est un petit peu une prophétie.
Je suis pas sûr qu'il milite pour ça.
Sa prophétie, c'est pour 2018. J'ai quand même comme un léger doute sur le fait que la Ligue 1 va disparaître dans les
mais comme dans tu es un peu souffrant.
Ouais, t'es souffrant.
En tout cas, ça mérite.
On continue.
L'article intéressant.
On continue à développer les infos mercato, messieurs. Oscar Garcia, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne, d'accord avec l'Olympiakos, apparemment. Voilà. Donc, il aura pas mis de temps à rebondir, l'entraîneur.
On s'en doutait. Hein.
Et puisqu'on est toujours à Saint-Etienne, toujours à Saint-Etienne, en tout cas, puisqu'il y a encore un joueur qui serait proche de Saint-Etienne, Paul-Georges Ntep. Trop cher.
Ah, c'est pas Nice?
Saint-Etienne, ouais, je crois que c'était à Nice.
Trop cher, finalement, pour les Stéphanois, il pourrait aller à Nice. En tout cas,
cher pour les Stéphanois.
Ouais, les Stéphanois, visiblement, ils ont pas assez d'argent à mettre sur Paul Georges.
T'es passé d'argent, mon vieux.
Ouais, c'est tout ce que ça vous inspire. Non, mais son retour en championnat,
Mais il y a une tendance aujourd'hui, parce qu'on sait nos cellules de recrutement sont mauvaises en France. Donc l'idée qui est courante et qui existe déjà depuis plusieurs saisons maintenant, c'est en gros de d'œuvrer au retour de mecs qui se sont barrés et pour qui ça n'a pas marché. En fait, c'est toujours, on est très concentré sur notre Ligue 1, les joueurs qu'on connaît. D'ailleurs, il y a eu la tendance des entraîneurs étrangers. Elle existe encore, mais on se rend compte que si ça marche, on se dit, ouais, l'expérience est bonne, continuons et tout. Mais dès qu'il y a un petit problème et tout, bim, immédiatement, il faut qu'on retrouve un profil Ligue 1, il faut qu'on retrouve notre base et on réentend les phrases. Ouais, mais il connaît pas notre championnat, il connaît pas ceci, il connaît pas cela, comme si les mecs étaient pas capables de s'adapter, comme si on pouvait pas travailler, apprendre, rien. Donc, il faut immédiatement de l'acquis. Saint-Etienne, il n'y a pas de cellule de recrutement, il n'y en a jamais eu, ça marche pas, c'est nul depuis des années, comme ça. Bon, et donc on cherche des anciens mecs qu'on connaît, qui sont éparpillés, on contacte l'agent, c'est facile. Ouais. Dis donc, il est en situation d'échec ou en situation bien.
Tu sais que c'est à l'arrivée Daniel, c'est même pas le club qui les contacte. C'est les agents qui les proposent en disant, Mvila, il veut revenir, Ntep, il veut revenir parce qu'il en manque de temps de jeu à Wolfsburg. Et puis que...
C'est des mecs pour qui ça n'a pas marché.
Sauf qu'après, il va falloir qu'ils acceptent aussi de s'aligner sur les salaires de la Ligue.
Qui s'aligne déjà, il a envie de rejouer, donc il revient. Mais c'est surtout les mecs qui sont partis quand même depuis un petit bout de temps. Et Paul-Georges Ntep, je veux dire, pour l'instant,
pépite lui aussi.
Dans le football, d'abord, effectivement, c'était étiquette pépite, mais c'est... Une demi-saison à Rennes, quand on en parle énormément. Ouais. Après, c'est beaucoup de blessures, parce qu'il a un corps qui a un peu fragile. C'est un départ à l'étranger et que dalle finalement.
Encore une fois, c'est bon. Il y a des choix de carrière. Alors tu peux te tromper. Lui, c'est un choix où il peut se tromper. En effet, Wolfsburg, ça lui correspondait peut-être pas. À l'arrivée, les blessures. Je pense que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un de avec beaucoup de recul, assez intelligent. Il a peut-être été mal conseillé sur ce transfert. Peut-être qu'aussi, quand tu vois le salaire qu'il a à Rennes et ce qu'on lui proposait, bah, c'était compliqué de refuser. Bon, c'est un échec. Maintenant, là où j'ai du mal à comprendre, c'est que si Saint-Etienne veut faire l'effort
bon et tout, comme on disait, pourquoi tu t'imposes pas en Allemagne?
Après, tu viens de le dire. Peut-être
bon,
que
fois, il est pas favorable.
Ouais, non, mais t'es pas obligé de t'adapter à un pays déjà. Après, je trouve que lui, pour de bon, moi, je l'ai connu un petit peu sur le terrain aussi. Hein, il faisait partie de cette génération de joueurs qui arrivaient, qui étaient très jeunes quand il était à Auxerre.
Il était très sûr d'eux.
Très sûr
de tout casser très vite.
Oui, mais avec beaucoup de talent. Il y a des joueurs où t'as l'impression. Non, mais.
Enfin, lui, c'était beaucoup l'accélération quand même.
Ouais, l'accélération.
Pas grand chose d'autre.
Il
allait très vite, c'était sa principale qualité.
Je trouve qu'il a une bonne frappe de balle, c'est mon avis,
on en revient toujours pareil, c'est des mecs qui ont des qualités quand même, Villa et tout, mais enfin, on les a pas vus.
Non, mais
je demande juste à ce qu'on les voit, c'est tout. Hein,
je pense que lui, c'est pas une mauvaise affaire.
Il y avait un mec magnifique à Lyon que j'ai toujours adoré, qui s'appelle Clément Grenier.
Ouais, mais c'est pareil.
Malheureusement, on a rarement pu voir. Enfin, on les a vus un peu, mais on a rarement pu voir toutes ses qualités. Et pourtant, il était destiné à un très bel avenir.
Et
on les enfile à chaque fois.
Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Daniel. Ce que je veux dire, là aujourd'hui, je suis pas en train de te parler de Entep ou de Grenier ou des autres en disant putain, c'est des super joueurs, il faut absolument le prendre. Je pense que c'est des bons joueurs qui peuvent, en effet, déjà pour leur carrière, ça peut faire du bien de revenir en Ligue 1 dans certains clubs, dans un club comme Saint-Etienne qui est en difficulté parce qu'il va ramener cette fraîcheur, il va dynamiser un petit peu l'attaque. Alors ça se fera pas a priori parce qu'il est trop cher. Moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est en disant encore le mot trop cher. Mmh. Mais putain, mais quand t'es le joueur, t'es dans une situation d'échec en Allemagne, mais fais des efforts. T'as gagné de l'argent. T'as bien gagné de l'argent. Me dis pas qu'à Saint-Etienne, ils vont te proposer un salaire de national. Ils vont te proposer quand même un salaire conséquent, peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils gagnent à Wolfsburg, sinon ils seraient jamais partis de Rennes pour aller à Wolfsburg. Mais fais des efforts. Fais des concessions pendant un an.
Toi, t'es revenu en France, hein.
Non, mais toi, tu rigoles. Mais si tu compares, moi je suis revenu en France, en effet, parce que j'avais envie de revenir.
Ben voilà.
D'accord. Quand je suis allé à Bastia, tu crois que j'y suis allé pour le projet financier ou le projet sportif?
C'est pour ça que je dis ça.
Toi, parce que j'ai senti le coup, parce que j'avais envie, mais parce que moi, dans ma situation, et je le reconnais, j'avais gagné déjà de l'oseille, et je me suis dit, écoute, je tente le coup à Bastia parce que je pense que je vais pouvoir m'éclater. Et c'était en Ligue 2. Et pourtant, j'avais des clubs de Ligue 1 et des clubs étrangers. Et ben là, pour Georges Entep, c'est peut-être une aubaine pour lui d'avoir Saint-Etienne et Nice dans la situation où il est. Je te dis pas que Saint-Etienne, ça éclate aujourd'hui, mais c'est un bon club. Ça reste un club fort. Si Saint-Etienne, il se remet dans le droit chemin et que lui arrive à jouer, à enchaîner les minutes avec un entraîneur qu'il connaît aussi, mais écoute, franchement, c'est tout bénef. Et la perte de salaire qu'il va avoir sur 6 mois ou un an et demi. Mais peut-être qu'il va en gagner dans 2 ans.
Qu'il en gagnera 10 fois plus après, effectivement.
Ben oui, mais c'est comme ça le football.
Jérôme,
sauf
Daniel,
que si ces mecs-là,
est-ce que ces mecs-là, si en revenant, sont assurés d'être titulaires, quoi?
Oui. Non, mais après, attends, non, mais Daniel,
si les performances les dernières semaines, c'est commencé à tourner. Non, d'un coup, le mec, il arrive à mettre tout le monde dehors.
Non, mais attends, je suis pas en train de te dire ça. Je te dis juste que si, comme tout le monde a dit, c'est une pépite, c'est ceci, cela, il s'est perdu. Alors, on va mettre ça sur l'échec, les blessures, le fait qu'il s'adapte pas en Allemagne, il revient en France.
Il a quand même tout approuvé.
Non, mais oui. Ben oui, mais dans l'état d'esprit, allez, il faut qu'ils partent comme ça. Mais si ils partent dans cet état d'esprit-là, c'est qu'ils sont capables de perdre des salaires. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le fait qu'il est trop cher pour Saint-Etienne. Comment ça, il est trop cher?
Les arguments qui sont donnés, c'est pas moi qui les donne.
Non, je sais pas contre toi, tu m'énerves. C'est contre le joueur.
Responsable, Arnaud, quand même.
Et Diarra, on se met pas d'accord avec le salaire au Paris Saint-Germain. Mais putain, mais viens gratuit.
Allez les gars,
viens gratuit.
Je vous renvoie à rmcsport.fr pour toutes les infos mercato.
Fais attention à ce que tu relèves.
Fais attention à ce que je vais faire attention à ce que je relève.
Tu vois dans quel état tu le mets là, tu le fais.
J'ai une question. J'ai une question. Peut-être ça va pouvoir me soigner, hein. On sait jamais. Je sais pas, peut-être ça pourra avoir un effet. Faut-il démanteler?
Tu vas avoir des boutons sur le nez.
Un grog, oui, non, mais j'arrête pas de faire.
Il faut que tu fasses un petit grog, ou alors je vais te dire dans ton état, un petit verre de cognac.
Oui.
Ça peut faire le plus grand bien.
Ça pourra désinfecter le fond de la gorge.
Demande si pendant la prochaine pub, là, quelqu'un trouve pas un petit verre de cognac.
Je vais demander à Cyprien, tiens.
Voilà, s'ils peuvent, qui produit l'émission. Demande aux maquilleuses aussi un peu de pommade, là, parce que ça rougit avec ça.
Ça rougit avec le nœud papillon, mais c'est pas vrai, en plus.
C'est en quoi? C'est vraiment
en acrylique. C'est en synthétique. Une question, messieurs. Faut-il démanteler la Ligue 1 en 2018? C'est pas moi qui la pose, cette question. C'est notre invité, Jean-Pascal Gaillon, économiste du sport et professeur à l'université du Maine au Mans. Bonsoir, monsieur Gaillon.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Merci d'avoir patienté, parce que quand ils parlent, on peut plus les arrêter, les deux. Vous posez cette question, juste après, je vais laisser le débat se développer autour de ce que vous allez nous dire. Vous, en quelque sorte, vous faites la prophétie qu'il va y avoir la création d'une super ligue européenne, ou en tout cas que c'est inévitable. Elle regrouperait les meilleurs clubs d'Europe, une ligue qui pourrait, si elle était créée, compromettre sérieusement l'avenir des championnats. De quoi il s'agit exactement? Expliquez-nous.
Ben en fait, c'est un peu un serpent de mer. Ça fait déjà 20 ans qu'on parle d'une super ligue européenne, et puis l'idée a un petit peu été oubliée parce que l'UEFA a habilement réussi à satisfaire les clubs qui participaient à la Ligue des Champions en donnant la plus grosse part des droits télé aux clubs. Mais en fait, le déséquilibre s'accentue encore dans les championnats nationaux. On a dans les championnats nationaux la plupart un, deux ou trois clubs qui dominent outrageusement, et les championnats d'une certaine manière perdent quand même de l'attractivité. On a un phénomène qui est que la première ligue devient la ligue majeure de soccer, de football, dans le monde, et un peu à l'image de la NBA pour le basket, de la NFL pour le football américain, de la MLB, de la Major League Baseball pour le baseball, et d'une certaine manière les grands clubs européens, on va dire autres qu'anglais, sont en train d'être déclassés d'une certaine manière. Donc il leur faut sans doute réagir. Parce que il n'y a pas véritablement d'autre issue que de se retrouver finalement le grand leader d'une ligue mineure, que ce soit la Bundesliga, de la Ligue 1. Alors peut-être que pour la Liga espagnole c'est un peu différent, mais enfin fondamentalement il y a quand même quelque chose qui devient presque dangereux pour les grands clubs continentaux. Donc je pense qu'effectivement les choses vont évoluer. Alors il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'il y a une décision récente de la commissaire européenne à la concurrence qui s'appelle Margrethe Vestager, et qui a dit que des deux patineurs de vitesse, alors ils ont des noms difficiles à prononcer, qui s'appellent Mark Tuitert et Niels Kerstolt, qui sont deux patineurs de vitesse néerlandais, on ne peuvent pas être sanctionnés par leur fédération sportive parce qu'ils participeraient ou qu'ils auraient voulu participer à des compétitions non organisées sous l'égide de leur fédération.
Alors ça Jean-Pascal, il faut que vous nous expliquiez exactement et précisément comment cette décision concernant des patineurs, donc on est a priori très loin du foot, comment ça pourrait impacter le foot et pourquoi moi j'ai compris, c'est effectivement très intéressant, mais décrivez précisément ce que ça implique.
Ça signifie quoi? A priori, ça veut dire que si des clubs décidaient de s'organiser une compétition
en marge de
l'UEFA, eh bien normalement, on ne pourrait pas sanctionner ni les clubs ni les joueurs. C'est surtout les joueurs qu'on pourrait sanctionner en leur disant vous n'avez plus le droit de jouer en équipe nationale, vous ne pourrez plus faire la Coupe du Monde.
Alors que jusque-là, Jean-Pascal, on est d'accord que ça avait été un peu une épée de Damoclès. Il y avait eu plusieurs leviers pour l'UEFA pour éviter, comme vous le dites, ce serpent de mer qui traîne depuis longtemps. On se souvient de l'époque du Media Partner, sans opposition, avec le G14 qui avait été créé. Bref, ne revenons pas là-dessus. Il y avait eu, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il y avait eu des leviers de l'UEFA. Il y a d'abord eu le fait effectivement de donner plus d'argent, de retenir, et puis aussi de dire attention, si un joueur ou si un club veut se mettre dans une compétition parallèle et un joueur y participer, on peut le sanctionner, il peut ne plus aller en équipe nationale. Et là, une décision européenne comme ça pourrait remettre en cause ça.
Oui, c'est vraiment peut-être. Alors, il est toujours très difficile de savoir comment les choses se passent. Pour l'arrêt Bosman, on avait deviné que ça allait être un big bang. Après, il y a eu un autre arrêt qui est passé un peu inaperçu, dont on a pu penser à un moment qu'il allait être un big bang. C'était l'arrêt Webster. Et là, il y a un nouvel arrêt, enfin une nouvelle décision européenne, dont on ne sait pas exactement quelles seront les conséquences, mais il est absolument possible que ce soit un peu la porte ouverte à, on va dire, cette espèce de démantèlement des ligues européennes, parce que pour un joueur de football de haut niveau, il y a quand même une menace qui est terriblement crédible, c'est-à-dire vous ne pourrez pas jouer la Coupe du Monde, vous ne pourrez pas jouer l'Euro. C'est totalement différent de ce qui se passe dans le basket. Hein. En basket, le seul rêve, c'est de jouer en NBA. Oui. Se faire exclure d'une équipe nationale...
Non, mais ça existe dans le basket européen, M. Gaillon. Avec des joueurs, ça existe dans le basket européen, avec des ligues européennes fermées, des joueurs menacés justement, alors, y compris par la fédération française.
Essayons d'être concret maintenant, Monsieur Gaillan. Comment en fait, alors qu'aujourd'hui on a, c'est vrai, des championnats nationaux qui peuvent sembler être en perte de vitesse, ou en tout cas, en Espagne, il se trouve que cette année on connaît le champion dès le mois de décembre, en France aussi. Ouais. En Angleterre aussi et en Allemagne aussi. Ça fait 4 sur les 5 championnats commercialement les plus développés.
En Italie, sachant qu'en Italie, Napoli et la Juve.
Voilà. Et ça devient de plus en plus comme ça. On a cet état de fait. Eux pourraient être tentés, mais alors déjà, comment et quels sont les clubs qui pourraient être tentés, au sein de quelle institution? Je pense que vous allez dire l'ECA, vous allez nous expliquer ça. Et attention quand même, il y a l'Angleterre. Est-ce que sans les Anglais ça pourrait se faire, sachant que eux peuvent très bien dire nous là on a déjà un petit peu une petite NBA parce que tout le monde veut venir chez nous, les tarifs qu'on pratique sont énormissimes, on dépasse tout le monde et on éclate tout le monde en droit télé, puis on a conquis tous les marchés asiatiques, tous les nouveaux marchés. Quel intérêt on aurait nous à envoyer 4 clubs dans une Super League?
Alors vous avez tout à fait raison. Ce qui est une vraie un dilemme crucial, terrible pour les clubs anglais, c'est que a priori ils sont dans la ligue qui fonctionne et eux auraient peu de raisons d'aller ailleurs. Simplement, ce qui peut se passer, c'est sans doute deux choses. Il y a une possibilité réelle qu'une ligue continentale se crée, on va dire autour de Bayern de Munich, Real de Madrid, Barcelone, Turin, Paris et quelques autres. Et puis cette ligue peut être un peu le grand concurrent de la première ligue. Alors là, je vois deux choses. Soit on a un système avec finalement deux conférences, une conférence qui est la première ligue et puis une conférence continentale. Et puis à la limite un Super Bowl à la fin de la saison. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, dans cette espèce de volonté de créer une ligue majeure du football, on pourrait aussi imaginer que la première ligue dise on a des clubs gallois chez nous, pourquoi pas aussi avoir des clubs d'autres pays. Alors ça sera évidemment quelque chose qui sera très très mal vu du côté des Gallois et aussi de plein de clubs anglais, mais on pourrait tout à fait imaginer que la première ligue, dans un univers où tout serait bouleversé, eh bien absorbe le Real de Madrid, Barcelone, Paris, la Juventus de Turin, Bayern de Munich. Donc il y a
quand même des conservatismes historiques qui font que cette version-là serait plus compliquée. En revanche, la Super League, moi j'ai combattu cette idée. Je crois que la première fois qu'on m'a parlé de cette idée, ça devait être au début des années 2000. Je pensais. Je continue quand même de penser que les conservatismes sont très forts dans le football et que les championnats nationaux ont encore des grosses cotes auprès des supporters. Et plus ça va, plus j'infléchis un peu ma pensée parce que je vois bien que, par exemple, un PSG, même un Lyon aurait un peu intérêt à se développer de cette façon-là. Je pense qu'en Italie, la situation du foot en Italie commence à devenir assez vraiment problématique. Ils ont plus de stades, il y a de moins en moins de gens qui vont.
Si les stades sont
beaucoup moins que.
Non, franchement, c'est plus que.
Comment qu'il y a une Casablanca.
Donc bon, un club.
Beaucoup
on va dire.
Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a deux ans, je le suivais.
On va dire que
peut-être que oui, il y a ça, mais les stades sont.
Ça a été une réalité chiffrée, Jérôme.
Bon, attends, les stades sont pleins.
Ça n'a plus rien pensé de regarder à la télé. Bref.
Bon, ça peut intéresser un club et des entrepreneurs comme ceux qui travaillent à la Juve et même un Dino De Laurentiis pourrait être intéressé par ça. Un Bayern, pourquoi pas, dans une Allemagne où le système des régions est fort. Bon, la Bavière, de toute façon, elle écrase tout et puis elle gagne tout, de toute façon, au foot. Je sens poindre des choses comme ça. Je vois bien qu'il y a beaucoup de clubs qui sont de toute façon résignés quand ils sont en Ligue des Champions. Ça fait des années maintenant qu'il y a des clubs qui viennent et puis ce qui est important pour eux, c'est d'être dans la phase de poule pour ramasser les 20 millions. Mais on sait très bien qu'ils vont pas sortir de la poule. On connaît plutôt les deux qualifiés assez vite. Donc, il y a pas mal de choses qui concourent à penser que c'est possible. Mais quel serait le déclic qui fait que on n'y croyait pas il y a 20 ans, on y croyait un petit peu plus il y a 10 ans, et aujourd'hui, on se dit pourquoi pas, qu'est-ce qui fait que ça pourrait basculer? C'est quoi, au sein de l'ECA, les mecs autour de la table se disent, allez, on franchit le pas?
Mais c'est une vraie possibilité parce que je crois qu'il y a pour eux la perspective d'obtenir plus de revenus, en particulier des droits télé, si on a un package comme ça qui naît. Alors évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain parce qu'on a quand même, il existe des engagements et des droits télé qui sont garantis au travers des contrats signés par l'UEFA avec les différentes télés pour la Ligue des Champions, mais. Il est quand même dans l'esprit, je pense, aujourd'hui des dirigeants de l'ECA, enfin des grosses têtes d'affiche de l'ECA, l'ancien G14 avec 18 clubs et quelques autres, de se dire quel est le modèle qui serait le plus satisfaisant. Et puis moi je crois vraiment que c'est une préoccupation pour les Allemands, les Italiens, les Français. Alors qui sont les Français? Bon, il y a Paris et puis mais aussi Lyon en effet. De se dire, nous sommes en train d'être marginalisés au regard de la Première Ligue, qui va devenir la ligue qui va prendre le business. C'est la Major League du soccer, mais en Europe et donc dans le monde. Et nous sommes en train de passer à côté. C'est ça qui est pour moi un élément déclencheur potentiellement. C'est que quand on regarde ces 3 milliards de droits télé qu'obtient la Première League, alors que dans chacune des ligues européennes, on est à peu près 1 milliard. Enfin, on se dit qu'il y a maintenant un vrai écart. Le fossé s'est creusé. Et pour
en fait, vu que les clubs sont des grosses entreprises dirigées par des gens qui sont là aussi pour faire du blé, c'est à la limite, vous pensez quoi, Jean-Pascal, que c'est presque illogique qu'on n'y ait pas pensé de façon concrète avant?
Ben, je dirais pas que c'est illogique. Je pense que c'est effectivement l'histoire, le poids de l'histoire et des conservatifs, comme vous disiez. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a, on franchit d'année en année, même de mois en mois, des seuils dans cet écart qui se creuse, dans cet écart qui à la fois se creuse au niveau des championnats nationaux, hein, où se dégagent quelques têtes, et dans les opportunités de réaliser des revenus, hein, très importants pour les clubs continentaux au regard de ce qui est aujourd'hui les opportunités pour les clubs anglais. Je rappelle que dans la Deloitte Money League, vous savez, c'est cette référence qu'on a, ouais, où on a le classement de tous les clubs européens en fonction de leurs revenus. Maintenant, les clubs anglais sont entrés en force. Sur les 10 premiers clubs de la Deloitte Money League, il y a 5 clubs anglais. 2 de Manchester, 2 de Londres et 1 de Liverpool. On voit les 10 premiers clubs de la Deloitte Money League, hein, on rajoute là-dedans Bayern de Munich, Juventus de Turin, Paris, le club de Madrid, enfin Real de Madrid et Barcelone. Voilà, ouais, on a la liste des forts et on voit que ils se détachent, quoi. Il y a effectivement derrière quelques autres qui sont peu ou prou dans le bon wagon, hein. Ça pourra être Tottenham ou peut-être l'Atlético de Madrid.
Voir comment on accepte les mecs, le ticket d'entrée, ouais, comment tu fais pour faire entrer de nouveaux. Mais toi, comment,
oui, mais
toi,
Jérôme, attends, on va en parler après. Je connais ta question, on va en parler après la pub. On garde Jean-Pascal Gaillon, économiste du sport et professeur à l'université du Maine, sur cette question donc des ligues fermées dans l'after. 23h22, vous réagissez sur l'hashtag RMC Live et au 32-16. On vous attend, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Arnaud Souk.
L'after jusqu'à minuit sur RMC en simultané sur BFM Sport. Vous allez sur rmcsport.fr, vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image. On est en direct avec Jean-Pascal Gaillon, économiste du sport et professeur à l'université du Maine. C'est au Mans, je rappelle la question initiale. Faut-il démanteler la Ligue 1 en 2018? C'est lui, hein, qui la pose. On parle de la possible, voilà, enfin en tout cas de la potentielle création d'une Super Ligue européenne. Tiens, juste avant la pub, Jérôme, Daniel voulait te poser la question. Je te la pose.
Toi, si demain tu vois une Super Ligue,
je t'en
pense, quoi. Mais non, mais comme je sais que t'es souffrant, enfin à la moitié,
ouais,
de
c'est adorable. Garde hein,
demain, il y a la création de ça où tu sens des mecs qui sont en train de bosser sur on doit prendre 3 clubs français, on doit prendre 4 clubs espagnols, on doit prendre 3 allemands. Tu verras ça comment, toi, le démantèlement des ligues nationales, bah, qui continueraient d'exister comme des championnats,
oui, oui, oui,
on va,
oui,
dire
non,
mineurs,
ouais, non, mais
t'aurais aimé jouer d'abord dans ce genre de championnat?
Non, parce que pour moi, le football, c'est comme aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça, parce que je suis né avec ce football-là et j'ai grandi avec. J'ai eu la chance d'y participer.
Ouais, mais regarde, nous, tu connaissais pas la Ligue des Champions. T'as connu la Ligue des Champions. C'est comme un championnat, hein.
Exactement. C'est pour ça qu'après, il faut vivre aussi avec son temps. Il faut accepter les changements. Il faut accepter qu'il y ait plus de d'intérêt pour certains clubs d'ouvrir ce genre de ligue. Voilà, c'est un championnat majeur, ça sera une référence.
Est-ce qu'à l'image de la NBA, ça serait pas génial d'avoir ce genre de championnat où finalement
génial, on est
c'est une ligue fermée, c'est une ligue privée, c'est une ligue. Non, mais après qu'on soit aux États-Unis,
c'est une chose. C'est du football. Non, football européen a toujours été comme ça.
Est-ce que t'as pas le potentiel pour créer finalement beaucoup plus de spectacles qu'il n'y en a aujourd'hui?
C'est pour ça que je demandais.
Non, mais attends.
Mais si t'as des ligues fermées, c'est tout pour l'attaque.
Mais tout pour l'attaque.
Mais quel rapport?
Le spectateur de jouer parce que t'as pas
le spectacle, t'en as
exactement ce qui se passe en NBA.
Sur tous les matchs, mais dans tous les championnats, t'as des matchs spectaculaires, hein, et qu'on me dise pas qu'il y a qu'en Angleterre ou en Espagne.
Non, il y a eu 5-0-0 dans la 22e journée.
Il peut y avoir des mauvais matchs, mais il y en aura encore, hein, t'en fais pas, ça sera pas une avalanche de buts, un spectacle exceptionnel, parce que il y a la Juve. Tu veux que je te montre des matchs de Champions League où on s'est fait chier avec des grandes équipes?
Non, bien sûr. Ce qui fait que tu vois énormément de points en NBA, c'est pas forcément que ce soit une ligue fermée. C'est d'abord, tu as un niveau, un élitisme qui est très fort, et ce qui a contribué aussi à ça et à la spectacularité du championnat, c'est aussi une adaptation des règles pour faire en sorte que ça le soit. Voilà.
Moi, seul truc qui me dérange dans tout ça, c'est ce genre de ligue. Quand t'as ce ligue, comme tu disais, comment tu fais pour intégrer d'autres équipes qui veulent y participer?
À partir du moment où tu crées ton truc, c'est comme l'Euroleague de basket aujourd'hui, avec les mecs qui demandent des tickets pour rentrer, et aujourd'hui, t'as une équipe comme l'ASVEL qui va peut-être être accueilli dans ce qui est une sorte d'entreprise privée qui est gérée par un catalan.
Ouais, ouais.
Et pourtant, ils sont pas champions de France, l'ASVEL.
Ouais, ouais, ouais.
Je sais même pas s'ils sont deuxièmes.
Non, c'était Monaco face à Champions, et
eux pourraient être admis parce que Tony Parker, qui est à l'ASVEL, connaît et est un pote en business avec le mec qui gère l'Euroleague. Donc en fait,
il se passe des choses déjà.
Et puis après, en fait, après, ça aiderait l'ASVEL peut-être à grandir parce qu'on regarde le bassin de population, le potentiel développement club, et c'est pour ça qu'on les prendrait eux plutôt que d'autres. Donc peut-être qu'ils feraient la même chose pour ça. Moi, je milite pas pour ça. Le sujet m'intéresse parce que, et là je me tourne à nouveau vers notre invité, on va dire, ça paraît en termes de business tellement évident que tout le monde va en profiter et que ça va croquer. Parce que t'imagines même un club comme Lyon, comment il pourrait en profiter. Un club, le troisième français qui serait accueilli, ce serait Marseille. Mmh. Taille du stade, potentiel, bassin de population, histoire, évidemment de moins. C'est tellement évident d'un point de vue marketing et business que tu ferais tourner la boutique très vite, qu'on en est presque à se demander comment les mecs ne se sont pas encore lancés dans l'affaire.
La seule chose, moi, qui peut me déranger aussi, là, c'est l'heure. Alors, si tu pars dans le fonctionnement de la NBA, c'est-à-dire, tu fais t'as des matchs, après les matchs de championnat, t'as les playoffs. Donc le premier rencontre le huitième, le deuxième, on est d'accord.
Oui, après c'est pas sûr que la formule serait.
Elle peut partir dans ce truc-là.
Admettons.
Moi, ça me dérange parce que Daniel en parlait dans la première partie de l'émission. Je sais plus pourquoi tu disais le foot c'est exceptionnel. Oui, quand West Ham a marqué contre Tottenham, tu peux avoir une équipe qui.
Mais toi, t'es déjà en train de parler d'éventuelles règles. Moi, je te parle juste de l'idée et c'est ce que défend. Enfin, c'est pas ce qu'il défend, c'est en tout cas ce qu'il avance dans son article.
On va leur donner la parole à Jean-Pascal Gaillon.
Pourquoi
ça n'a pas été fait à l'heure où on parle, alors que ça fait des années que c'est le serpent de mer, comme vous dites.
Non, moi je crois que vraiment un des aspects qui a été déterminant, c'est l'épée de Damoclès sur les joueurs. Si les joueurs se hasardaient à aller dans une ligue qui n'était pas sous l'égide de l'UEFA, ils auraient été dans un bras de fer à minima et sans doute sanctionnés. Et pour un joueur de football aujourd'hui, pour son image, pour sa capacité à générer des ressources, avoir des contrats publicitaires, il faut être présent à la Coupe du Monde, il faut être présent à l'Euro. Donc ça, pour moi, ça a été le blocage. Ouais. Qui a empêché... aujourd'hui, on a peut-être une évolution, on va dire, juridique, qui permettrait bien de lever cet obstacle. Donc c'est pour ça que je pense qu'il se peut que les choses évoluent désormais dans un registre, effectivement, qu'on voit, qu'on sent poindre depuis 20 ans, hein, c'est tout à fait juste. Mmh. Et là, je pense que de surcroît, hein, je le répète, c'est concomitant avec un déséquilibre compétitif qui est plus marqué encore aujourd'hui cinq ligues européennes et cette déséquilibre entre la première ligue et les ligues des différents pays continentaux. Donc c'est beaucoup d'éléments qui concourent à laisser penser que ça pourrait aller dans ce sens-là. Alors moi-même je ne suis pas du tout favorable à une ligue fermée, hein. Moi je pense que je souhaiterais
pour dire qu'effectivement il y a une conjonction de phénomènes qui pourrait conduire à ça. C'est article. En fait, vous militez pas pour, bien sûr.
Je milite pas particulièrement pour. Je pense que c'est un peu inéluctable, quoi. C'est-à-dire que
est-ce que c'est dans notre état d'esprit aussi? Finalement, est-ce que c'est dans l'état d'esprit européen? Est-ce que finalement c'est pas quelque chose typiquement nord-américain, ce genre de ligue?
Oui, je crois qu'il y a une vraie différence entre donc les ligues fermées, les ligues ouvertes, c'est dans la culture football européenne d'avoir des ligues ouvertes. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement, c'est un marché mondial. Les clients sont chinois, les clients sont nord-américains, les clients sont en Asie, et eux, ils préfèrent un match Bayern de Munich contre Real de Madrid qu'un match entre Bayern de Munich et Wolfsburg, ou match entre Paris et Amiens.
N'oublie pas le marché et les marchés que cherchent à conquérir ces clubs européens, parce que dans les tailles de marché réduites à leur pays ou à l'Europe, ils ont déjà un peu tout fait, et eux, ce qu'ils veulent, c'est se développer encore plus, et dans les pays où on cherche à se développer, cette idée-là serait accepté immédiatement, parce que si t'as des Bayern, Real, PSG, Barça, Juve, machin régulièrement, mais tu vas faire un carton monumental d'oseille, quoi. Ouais.
Oui, tu vas mettre une plaque à tous les championnats mineurs.
Allez, je vous laisse la parole, Jean-Pascal Gaillon.
Oui, En fait, il faut avoir une vision globale. Aujourd'hui, on a, si on essaie de classer les ligues mondiales de sport en fonction de leurs revenus, on a d'abord la NFL, Football League américain, la MLB, le baseball, et après la Premier League. Et ensuite seulement la NBA, alors c'est pratiquement la même chose, Premier League et NBA, et puis après la Ligue de hockey. Et puis après, on a la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Bundesliga, la Ligue 1. Donc en fait, on est dans une espèce de compétition des plus grandes ligues mondiales, et c'est presque une anomalie qu'il n'y ait pas Ligue de soccer européenne qui soit la première ligue de sport du monde, parce que
et ce serait, probablement la première ligue de sport du monde, d'un coup si elle se crée.
Voilà, c'est exactement ça. Mais la première ligue, les managers de la première ligue ont en tête de devenir la première ligue de sport du monde, de spectacle sportif du monde, devant la NFL. C'est une obsession. Donc c'est quelque chose que qu'il faut avoir en tête pour mesurer combien la situation actuelle finalement est une situation qui est atypique et presque entre guillemets archaïque dans une globalisation du spectacle sportif. Donc voilà, c'est en cela que je suis effectivement j'ai écrit ce titre un peu provocateur, mais fondamentalement il y a quelque chose qui à mon sens va de craqueler ou va avoir vocation à disparaître, c'est-à-dire cette particularité des ligues éclatées, alors qu'il y a une demande mondiale pour, on va dire, une espèce de super ligue, quelle qu'en soit sa forme.
Jérôme, très rapidement.
Jean-Pascal, vu que les Anglais veulent dominer, comme vous avez dit, c'est la puissance aujourd'hui en Europe, hein, ça se voit par rapport à ces chiffres. On parlait il y a quelques mois, que les Anglais étaient prêts même à accueillir les grands clubs européens dans leur ligue.
Voilà,
il pourrait faire ça aussi. Non, mais c'est vrai.
J'y crois. C'est une possibilité. Les Anglais sont assez pragmatiques, il me semble. Et je crois qu'il y a une brèche parce que dans cette ligue, elle est anglo-galloise. Mmh. Alors, elle n'est pas anglo-galloise et écossaise. C'est d'ailleurs un point qui a toujours beaucoup énervé le Celtic et puis les Rangers parce que eux sont à l'étroit dans leur ligue écossaise. Mais à contrario, c'est aussi une ligue qui n'est pas que anglaise. Donc, je suis évidemment convaincu que ce sera très compliqué d'arriver à l'accueil de ces clubs italiens, français, allemands, espagnols. Mais ça n'est pas tout à fait exclu.
Parce que ils ont aucun intérêt. Aujourd'hui, ils ont aucun intérêt, eux, à les Anglais, hein, je parle, à créer cette fameuse ligue. Hein,
je nuancerai.
Très rapidement, on doit vous laisser, Jean-Pascal Gaillon.
Oui, très. Moi, je nuancerai parce que je pense qu'il y a 4 clubs de Londres, 2 de Manchester et 1 de Liverpool qui ont peut-être intérêt à cela. Effectivement, il y a sans doute 10 clubs anglais un petit peu en dessous qui, eux, ils perdraient l'essentiel de leurs opportunités. Mais je ne suis pas sûr que pour les plus gros clubs anglais, ce soit pas la voie la plus lucrative et la plus alléchante.
Merci beaucoup, Jean-Pascal Gaillon, d'avoir été en direct dans l'After.
Merci
beaucoup, à bientôt.
Et bonne soirée à vous. Je rappelle que vous êtes économiste du sport et professeur à l'université du Maine. Ça réagit pas mal sur le hashtag RMC Live. Tiens, on nous dit, mais finalement, la Ligue des Champions dans sa config actuelle est parfaite pour les gros clubs. Mais c'est pas tout à fait le même concept que la création d'une ligue.
De toute façon, on le disait, hein, y a les surprises, il y en aura beaucoup moins.
La Ligue des Champions, même si on l'a ouverte d'ailleurs à des pays.
La Ligue des Champions est construite comme ça, même si elle s'est ouverte à des pays qui peuvent tenter leur chance. Mais au fond, et c'est ce qu'on voit chaque année dans la Ligue des Champions, ça commence à devenir sérieux en huitième. Et souvent, en quart, on a les affiches. Et donc, ça réduit le truc à 8 clubs. Ouais. Donc, c'est pas assez. Et ça n'est surtout que... je veux pas faire l'addition parce que je vais me planter. Mais bon, les 8 matchs des huitièmes, les 4 des quarts, 8 et 4,
ça
12.
Fait 15.
15 matchs dans l'année. Pas assez pour le business. Donc là, t'en aurais, parce que ceux de la première partie de saison, ils valent plus rien, les matchs de poule. Et dans cette création-là, certaines équipes qui, en poule, n'arrivent plus à passer, auraient plus de revenus et pourraient devenir des candidats et des concurrents plus sérieux pour qu'on ait plus de gros matchs tout au long de l'année. Mmh. Là, j'essaye. Je me fais l'avocat du diable parce que je suis pas vraiment partisan, moi, de ça. Mais d'un point de vue du business, mais moi demain, et je pense que je suis pas le seul, plein de gens qui nous écoutent, nous tous, franchement, on la crée en une journée, la Ligue. On est bien d'accord qu'on la crée très vite. une fois, on va discuter pendant 2 heures des règlements. Ouais. On va discuter pendant 4 heures de quelle équipe doit venir en fonction de. Enfin, tu sais, c'est comme si on organisait une grosse soirée, on envoyait les invitations. Ouais. On va regarder en Allemagne. Bon, on prend Dortmund, public, histoire, machin. Ouais. On va prendre Schalke, public, pareil. On prend Bayern. Ouais. Peut-être même qu'on irait, alors qu'ils sont mauvais, complets, mais peut-être même une équipe comme Hambourg, parce qu'il y a une grosse population, et en leur donnant les moyens, peut-être que, hein, voilà. En Italie, on sait très bien qui on prendrait. En France aussi. Enfin, en une journée, on a créé, ouais, on a créé notre super
league, quoi, voilà, tu vois. On montrait tout à l'heure à l'image sur beaucoup d'équipes.
On enverrait les invitations et les présidents diraient, bon, ok, on y est. On a tel partenaire. Les partenaires, on les trouve très, très vite, hein. Ton service qui va s'en occuper va rapidement trouver tous les sponsors. Les terrains, tu les as. L'UEFA ne peut plus te sanctionner. Parce qu'il y a eu cette décision de la Cour de justice. Tu ne peux plus être sanctionné. Les joueurs peuvent continuer à aller en équipe nationale. Mais c'est du gâteau, en fait.
Kevin,
c'est du gâteau.
Kevin, supporter lensois, ça fait un moment qu'il nous attend au 32-16. Salut, Kevin.
Ah, lui, il y sera pas, désolé.
Toi, tu seras pas, oui.
Toi, tu seras dans la Ligue du Pas-de-Calais.
Tu peux y être avec Queen's Park Rangers, éventuellement.
Bonjour, bonne année, bien sûr.
Bonne année à toi.
Bonne année.
Ouais, bah, pour l'instant, on va essayer de voir si on n'est pas en national l'année prochaine, déjà. Ça tombe pas mal.
Ouais, ça va aller, ça va mieux, quand même.
Non, je rigole pas, Jérôme. Hein. Je me rappelle de la saison 2008. Enfin, 2008-2009.
Ouais.
Vous étiez en bagarre avec nous, mais bon.
Ah, c'est vrai. Voilà. C'est loin, ce temps.
Ah. Ouais, donc moi, je voulais revenir sur le sujet. En fait, moi, j'avais pas compris. C'est une ligue, en fait, qui est un peu type Ligue 1, mais pour l'Europe, en fait.
Oui, c'est ça. C'est à l'échelle européenne, mais ça serait une ligue... pas type Ligue 1, justement, puisque ça serait... Enfin, ce dont on parlait, mais voilà, ouais, c'est une possibilité. Ouais. Ça serait une ligue fermée.
Bah moi, ce que je dis, c'est que c'est la mort des clubs moyens, surtout.
Ah bah, de toute façon, c'est le cas aujourd'hui, hein, Kevin. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses dans le foot, on veut pas regarder certaines réalités. Mmh. En fait, on veut pas regarder certaines choses qui existent déjà depuis longtemps. Je le disais tout à l'heure, c'est qu'en Ligue des Champions, depuis combien d'années, sur les 5 dernières éditions, les 10 dernières éditions, à combien d'erreurs on est quand on joue en septembre, bah, quelles sont les deux équipes qui vont sortir? On doit pas se tromper des masses, hein.
Oui, ouais, mais
donc
même sur les
donc la mort depuis... des clubs, comme tu dis, de milieu de table. Je vais même aller plus loin pour un club comme le tien, un club dans une petite ville, ça ne peut pratiquement plus prétendre à être important dans le foot. Parce que, comme Lens, comme ça, et toutes ces réflexions là, en fait.
Bon, il reste quand même quelques jours. La dernière, c'était Leicester.
Oui, mais enfin, Leicester, c'est pas une petite ville, hein,
tu veux dire pour la surprise. Non, mais on est d'accord.
Bon, c'est Paris. Leicester, c'est Paris.
Non, mais c'est pas ça. Leicester, c'est pas une petite ville.
C'est pas une petite ville.
Non, mais d'accord, mais c'est pas. C'était ce qu'il voulait dire, c'était le concept de truc inattendu.
Leicester, c'est. Oui, mais. Non, mais toi, tu le savais. T'avais dit qu'ils allaient être en Angleterre.
Mais c'est l'exception. Mais il y a toujours une exception à la règle. Mais c'est un petit phénomène.
Oui,
c'est un truc que tu vois une fois.
L'Angleterre, on va y aller, messieurs.
C'est en Angleterre.
Mais c'est l'exception. Mais il y a toujours une exception à la règle. Mais c'est un petit phénomène.
Oui, c'est
un truc que tu vois une fois.
L'Angleterre, on va y aller, messieurs, dans quelques instants. Merci, Kevin, d'avoir fait le 32-16 supporter lensois. On sera avec Philippe Auclair, notre drôle de dame, pour notamment revenir sur Tottenham, West Ham, match nul, un partout ce soir dans ce match de clôture de la 22e journée de Première Ligue. Et puis, on fera un bilan de ce que Daniel, qu'on n'aime pas, mais a raison, hein, appelé le Boxing Day. Voilà, puisque le Boxing Day, on rappelle, en Angleterre, c'est juste le 26 décembre. Hein, c'est ça, hein, je me trompe pas, Daniel.
C'est la période des fêtes.
C'est ça. Voilà.
C'est le jour où il y a
c'est le 26.
Les big soldes. À tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Arnaud Souk.
Jusqu'à minuit avec Daniel Riolo et Jérôme Roten, on va tout de suite parler de la Première Ligue. On accueille Philippe Auclair. Salut Philippe.
Bien, bonsoir Arnaud, bonsoir de Wembley. Je sors à l'instant du stade.
Voici. Et t'as vu des beaux buts ce soir?
Ah écoute, j'ai vu un match qui n'était pas fantastique, c'est moins qu'on puisse dire. Par contre, j'ai vu deux buts venus d'ailleurs, qui nous ont laissé complètement baba, signé Pedro Obiang. Deux buts, pas vraiment, je dirais, l'illustration de ce qu'on a vu sur la pelouse, mais absolument somptueux. Je crois qu'on est maintenant au total de 120 buts pour ces 4 journées de championnat pendant la période des fêtes. Un joli tableau de chasse.
Ouais, avec 5-0-0 quand même dans la dernière journée, si j'ai bien compté. C'est pas la vérité ?
C'est normal.
Bah, même toi, tu le dis, Jérôme.
Qui a été compliqué en termes de, il y a eu 14 buts sur l'ensemble de la journée, mais sinon c'est cette période des fêtes, ça a été quand même très spectaculaire.
Et juste pour rester sur Tottenham, notre match du soir, un partout donc entre Tottenham et West Ham, les Spurs qui calent et on a le sentiment que c'était vraiment le soir où il fallait pas caler, surtout contre West Ham, Philippe.
Oui, bah écoute, il y a des soirs comme ça. Là, je viens de parler avec avec Mauricio Pochettino. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de pouvoir l'entendre au micro sur SFR. Il était pas si déçu que ça. C'était juste une de ces soirées où tout simplement, bah, Adrien en grande forme, Adrien sort un sauvetage absolument exceptionnel en première période. 31 tirs contre 3. Ça t'en dit long sur la façon dont ce match s'est déroulé. C'est simplement un manque de chance, si tu veux, du côté de Liverpool, de Tottenham. Mais le bilan pour eux reste quand même très positif. 3 victoires, 1 match nul. Parmi les équipes du top 6, en fait, bon, personne n'a fait mieux. Ils ont fait comme Manchester City, par exemple.
On est en train de revoir les deux buts là sur les images sur BFM Sport, but absolument magnifique. Tu voulais parler faire le bilan avec nous aussi de ce Boxing Day, en tout cas de ces vacances de Noël. 3 journées de Première Ligue se sont déroulées, Philippe, et donc tu le disais, un nombre de buts assez énorme marqué, et surtout des bilans à tirer de ce Boxing Day. C'était un passage peut-être redouté par certains, et voilà, on peut en tirer quelques enseignements.
Oui, bilan très mitigé pour Manchester United, qui s'est bien repris, mais bon, pas oublier les trois matchs nuls d'affilée, qui ont fait quand même très très mal, qui d'ailleurs lui ont fait menacer de perdre la seconde place. Un joli bilan pour Liverpool, Manchester City et Tottenham, malgré tout. Bilan décevant pour Arsenal, il n'y a pas moyen d'y échapper.
Même s'il n'y a pas de défaite. Espérer,
excuse-moi, mais oui.
Même s'il n'y a pas eu de défaite, je dis, pour Arsenal, pour le coup.
Oui, mais bon, un match nul, une défaite, bon, tu prends un point, vu le rythme qui est imposé par les équipes du top 4 en ce moment, de toute façon, un match nul, c'est une perte sèche. Tu regardes le 3-3 contre Liverpool, qui a lancé les hostilités pour cette période des fêtes. Tu vas dire, ok, c'est un point de gagné. Tu regardes le match que nous avons vécu et également il y a 2 jours, il y a un jour de ça. Excuse-moi, je ne sais plus quel jour je suis. Tu dis également un point de prix, mais bon, moi je vois surtout 4 points perdus pour les Gunners et pour Arsène Wenger. Mais c'est plutôt dans d'autres, il y a d'autres équipes qui ont perdu beaucoup. C'est des équipes en bas de tableau. En fait, on n'a pas eu véritablement dans cette période des fêtes peut-être les mêmes moments décisifs auxquels on a pu assister lors des saisons précédentes. Là, c'était plutôt, si jamais tu ne te plantes pas, dans le cas de Manchester City, tu continueras, tu l'auras, ton titre de champion. On en a eu la confirmation. C'est une période des fêtes qui nous a apporté beaucoup de choses au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance, quelques matchs au scénario étonnant, des buts magnifiques. Mais pour ce qui est du sort du championnat d'Angleterre, la situation ressemble fortement aujourd'hui à ce qu'était avant le 22 décembre, donc date du Arsenal-Liverpool qui avait lancé les hostilités.
Et on regarde quand même dans le top 6, là, je suis en train de regarder, il n'y a pas eu une seule défaite pour un membre du top 6 quand même pendant cette période des fêtes. Alors, même si c'est vrai qu'Arsenal, pour le coup, a fait 2 matchs nuls, Manchester United également a fait 2 matchs nuls, il y a eu un...
3 matchs nuls.
Et mine de rien, 6 points. Ce que tu viens de dire là, nous ramène à la discussion qu'on avait juste avant. Avec Jean-Pascal Gay.
Ouais. Non, mais les gros sont au rendez-vous. Et les gros étaient rendez-vous, sont rendez-vous déjà depuis le début de l'année, comme à son habitude dans le championnat d'Angleterre. Après, il y a un rythme qui est différent. Oui, en effet, on sent des équipes, on sent que Arsenal est en dessous. Tottenham, là, s'en est bien sorti ce soir avec ce match nul parce qu'ils perdaient 1-0, même s'ils font un bon match dans l'ensemble. Et qu'il y a 4 équipes aujourd'hui qui sont plus fortes. Liverpool est sur une bonne dynamique et confirme son très bon bilan, le meilleur bilan avec Manchester City et Tottenham sur cette période des fêtes. Voilà, le top 4 va être difficile à bouger.
Ouais. Là, c'est 62 pour City, 47 pour United, 46 pour Chelsea, 44 pour Liverpool. Et derrière, il y a un trou, Tottenham 40 et Arsenal 39.
Franchement,
Tottenham 41 du coup.
On a du mal à voir Arsenal revenir dans le top 4 parce que Liverpool, qui est quatrième aujourd'hui, dégage une force vraiment offensive, comme depuis le début de l'année, mais encore plus actuellement. Et puis surtout, ils se sont renforcés défensivement. Concernant Tottenham a quand même été souvent surprenant. T'as l'impression que des fois ils vont plonger et puis ils sont encore là. Tottenham, c'est une grosse équipe avec des gros joueurs. Harry Kane déjà en est l'exemple type, et puis Eriksen au milieu. Rien qu'avec ces deux joueurs là déjà, ils peuvent gagner beaucoup de matchs.
Quelque chose à ajouter, Philippe, sur ce bilan des...
Oui,
Vas-y, je t'en prie.
Je dirais pour Tottenham, je pense pour Tottenham, le mauvais moment est passé. En plus de ça, maintenant Eric Lamela est vraiment revenu. On a encore vu Wanyama figurer quelques minutes dans ce match. Il est un petit peu à court de match. Je pense que on va profiter de ces matchs de FA Cup pour pouvoir donner un petit peu de temps de jeu. Son retour va faire énormément bien à cette équipe de Tottenham qui avait beaucoup de mal à trouver un équilibre en milieu de terrain en son absence. Il va falloir compter avec eux. Et je suis d'accord avec Jérôme. Même si Liverpool perd Coutinho pendant ce mercato de janvier, ce qui est tout à fait possible et ce qui est peut-être même probable, je pense pas que ça leur fera tant de mal que ça. Et je pense par contre que le recrutement de Van Dijk et sans doute d'un second arrière central, voire d'un milieu défensif pendant ce mois de janvier, va les rendre extrêmement dangereux. Et comme je le dis depuis le début de la saison, attention à Liverpool en Ligue des Champions. Pour moi, c'est le joker cette année.
Merci beaucoup Philippe Auclair, c'est entendu.
Merci à vous.
Très bonne soirée. Van Dijk recruté pour 84 millions, effectivement.
Salut Philippe.
Ça en fait, c'est un nouveau record pour le défenseur. Nouveau record également pour un transfert.
Si tu le dis bien.
Van Dijk.
Ouais, tu sais comment il a dit.
C'est pas ça?
Moi, quand ça s'écrit Van Dijk. Je m'appelle Van Dijk tout le temps.
Van Dijk et toi,
c'est Van Dijk. Philippe qui a dit Van Dijk. Ouais. Donc moi, je m'adapte.
Non, mais c'est bravo.
Oui. Mais voilà, tu vois comme quoi je raconte pas que des bêtises. Tiens, petit résultat de 8e de finale.
C'est vrai que ça t'arrive.
8e de finale de Coupe du Roi. Je sais que tu adores ça, Jérôme, et que tu le regardes avec beaucoup d'attention.
Mais j'aime toutes les compétitions.
Celta Vigo, Barça, un but partout. C'était le retour ce soir d'Ousmane Dembélé.
Ouais.
Voilà. Alors il y avait le grand débat hier justement avec coach Courbis de savoir est-ce que on s'efforce pas un petit peu à le faire reprendre pour faire reprendre. Est-ce qu'il reprend pas trop tôt justement?
Je suis pas médecin. Donc.
Bah exactement. On est
lui non plus d'ailleurs.
Si Roland un peu plus.
Roland maîtrise mieux, ouais. Mais moi non plus. Déjà, on n'est pas dans le service médical de Barcelone. Et puis, ouais, il y a des gens compétents aujourd'hui qui sont capables de juger si Dembélé il peut rejouer ou pas au football. S'il est sur le terrain, c'est que tant mieux. Ça s'est bien remis plus vite que prévu.
Ouais.
Et c'est bon signe pour lui, pour Barcelone, mais aussi peut-être pour l'équipe de France, parce que là, il revient assez tôt et il a le temps de se remettre en forme. Hein. Et, ouais. Didier Deschamps peut y
compter. Ça sera suffisant justement pour espérer le voir à la Coupe du Monde.
Période, on rappelle
Moussa Dembélé transféré pour 105 millions d'euros.
Il a allé trois mois et demi, quatre mois pour retrouver un très bon niveau dans une équipe de Barcelone qui marche bien. C'est quand même plus facile de rentrer dans ce genre d'équipe qu'une équipe qui est dans le ventre mou ou en difficulté comme peut l'être par exemple le Real Madrid cette année. Donc moi je pense que ça peut sentir bon pour lui. Et puis il y a cette guéguerre avec Coman, hein. Je pense que les deux, soit il amène les deux, soit il en prend un des deux.
Autre huitième de finale de cette Coupe du Roi ce soir, la victoire du Real Madrid sur le terrain de Numancia. Ça, pour le coup, tu vois, c'est un club qui est dans une petite ville, Numancia. Logique.
Mais tu sais que c'est pas parce que t'es une petite ville que t'es un petit club de football.
Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ce qu'on disait.
Ce soir,
mais avec
là-dessus. Non, mais
on disait, et Daniel le rappelait très justement, c'est de plus en plus difficile pour les clubs dans les petites villes d'exister.
Oui, là c'est vrai, il y a une tendance quand même.
Là où t'avais Lens dans les années 90 qui pouvait être champion de France, là où t'avais Auxerre qui pouvait être champion de France, gagner des coupes, aller en quart de finale de Ligue des Champions.
Dans les pays de foot, t'as plus de petites villes. Tu vas me trouver une exception, mais si on prend en Italie, que ce soit Turin, bon Milan est pas dans le coup, mais c'est Turin et Naples en ce
dans
moment.
Dans les top clubs, dans les
Barcelone et Madrid, Paris, Lyon et Marseille, Manchester et Londres.
Si t'avais Hoffenheim en Allemagne, toute petite ville qui avait parvenu à briller. Bon, je sais plus, ils avaient pas fait.
Oui, enfin ça va.
Ils étaient allés en Coupe d'Europe une année quand même.
Ils ont été champions. Ah,
ça, tu peux toujours faire.
Hoffenheim, ils ont été champions.
Non, jamais d'avis.
Ils ont pas été champions.
C'est une toute petite ville Hoffenheim. Quatrième l'année dernière Hoffenheim, tu vois Daniel.
Non mais il y a quelques années,
3000 habitants, je crois, Hoffenheim, si je raconte pas de bêtises.
Non, mais tu peux toujours trouver un truc.
Oui, non, mais c'est l'exception. Voilà.
C'est comme
ça. Mais Wolfsburg, si on y va par là.
Mmh. Je suis pas sûr que Wolfsburg, ça soit une si petite.
Non, mais Wolfsburg, c'est un club entreprise, pas pareil.
Messieurs, quelques petites informations du jour à 23h51 dans l'after sur RMC. D'ailleurs, Leicester, j'ai vérifié, 400 000 habitants quasiment.
Ouais. Non, mais c'est vrai que tu l'avais annoncé, c'est tellement un grand club avant qu'il soit champion.
Moi, j'avais vu Ranieri avec Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, etc. Oui, il y a un quiz d'abord. Deux petites infos du jour. Cavani, Pastore qui sont pas revenus à l'entraînement.
Ah, parce que toi, tu sais, toi.
Mais non,
regarde, t'as vu comment je lui fais.
C'est que même moi, j'y ai cru. Cavani, Pastore qui sont pas revenus à l'entraînement. Bon, coutumier du fait, notamment, on le sait, Edinson Cavani.
Oui, c'était là hier, ni aujourd'hui.
Ils étaient prévus ou pas?
En tout cas, c'était une surprise de pas les voir, visiblement.
On sait pas.
On n'en sait rien.
Bon, ça devait être prévu.
Je sais pas.
Mais oui, Cavani, prévu. Après, Pastore, vu qu'il a des envies de départ, c'est peut-être pour exprimer aussi son mal-être.
Tiens, des envies de départ, peut-être Ben Arfa et Lucas Moura également en ont. En tout cas, Emery a laissé la porte ouverte aujourd'hui.
Non, mais c'est étonnant.
Ça va, ça
c'est
va,
tout ce que t'as à dire, ça, je m'étouffe.
Ça, ouais, non, mais ça va. Non, mais oui, ça vas-y, va lance bien. Le quiz, là, parce que tu
non,
m'énerves.
Je vais pas
là,
lancer le, je vais pas lancer le quiz.
Les gens, c'est désagréable, tu leur tousses.
Non, parce
dans
que
les
j'étais
oreilles.
En micro, tu vois, c'est magique. La Fédération Française de Foot qui se mêle aussi du programme d'Eurosport, parce que je sais pas si vous avez vu.
Oui,
a priori, le match du PSG en 32e de finale de Coupe de France va pas être diffusé. Face à Rennes.
Sur un site payant.
Oui, non, sur Eurosport, mais en fait, sur Eurosport Player. Ça veut dire que c'est un truc que tu payes en plus.
Le truc,
c'est 8 euros par mois.
Pour voir les tournois du Grand Chelem, moi, d'habitude.
Ou pour regarder les courses de ski, tu vois, tu
prends ça pour. Pour voir un match de foot.
Non mais c'est étonnant quand même.
Ah c'est non mais c'est... ça mérite presque un débat un peu plus gros parce que bon la 3F semble-t-il a envie d'intervenir pour que ça ne se passe pas comme ça parce que là vraiment tu vas vraiment limiter.
Ah, attendez.
Surtout qu'Eurosport Player, je voudrais dire alors là et pour le coup, je le fais à dessein en espérant vraiment qu'il m'écoute. Donc moi je prends l'appli donc ouais. En janvier c'est un truc qui est pas renouvelable, tu peux le prendre et puis donc je prends en janvier en septembre pour voir les grands chelems OK non, mais après mais c'est une arnaque énormissime pour te désabonner parce que soi-disant il y a pas de renouvellement automatique mais tu galères comme c'est pas possible pour arrêter l'abonnement. Qui au moins déjà ils commencent par faire un truc vraiment clair parce que tous ceux qui vont vouloir s'abonner juste pour voir ce match-là, on va dire ils vont payer, je crois que c'est 7,99 il me semble, de prendre l'appli donc sur ton iPad. Tu vois le match, après tu dis ok j'arrête.
Allez j'arrête, il peut pas.
J'arrête.
En fait.
C'est monstrueusement difficile de te barrer de ce truc-là.
Ah ouais.
Moi à chaque fois je prends 2 mois dans la foulée où je paye pour rien dans la foulée de mes grands chelems que je paye.
Putain, file-lui 20 euros.
Donc au moins faites un truc clair.
Tu sais que je
au moins faites un truc clair. Quoi.
Bon,
arrêtez
allez,
d'essayer d'arnaquer t'écouter. Les gens. Et ça mériterait un débat beaucoup plus vaste sur effectivement ce football qui devient de plus en plus payant.
Là.
Et je comprends que ça.
Là, pour le coup, la Coupe de France, ça fait un peu
ouais. Chier beaucoup les gens parce que ça commence à devenir de pire en pire.
Surtout, c'est l'affiche en plus, quoi. C'est ça qui est étonnant.
C'est surtout ce tour cacahuète, là, du mois de janvier, là, qui est terrible pour les pros. Au moins, on a une affiche, voilà, qui. Putain, on va pas la voir.
Allez, on accueille Kevin.
On va voir.
Il faut que tu prennes Eurosport Player.
Supporter de Lens et supporter de Nice. On peut les laisser parler parce que c'est l'heure du quiz. Salut Kevin, salut Laurent.
Salut
Kevin, salut
c'est
Laurent.
Parti pour le quiz de l'after. Tiens, juste avant ça, Kevin, tu veux te mettre avec Daniel ou avec Jérôme?
Bah le meilleur, hein, Daniel.
Ok, Kevin ouais. Et Daniel
t'as
face
pas écouté.
À...
Toi, tu dois pas écouter souvent l'after, c'est pas possible.
Bon. Est-ce que vous voulez connaître le thème? Je suis sûr qu'il va vous plaire. Bilan 2017, première question de ce grand quiz de l'after. Harry Kane est le meilleur buteur de la saison avec 56 buts, enfin de l'année 2017, avec 56 buts depuis combien de temps? Et quel est le dernier joueur à avoir devancé Messi et Ronaldo? En quelle année, quel joueur avait devancé Messi et Ronaldo qui, depuis, avait tout aligné jusqu'à ce que Harry Kane...
Lewandowski.
Non. 2008.
Non, c'est pas 2008,
2009.
C'est pas Lewandowski. 2009, c'est oui.
C'est 2010, 2000
2009.
Voilà, bah c'est moi qui l'ai dit.
Bah oui, mais maintenant il me faut le joueur.
Donc j'ai un point quand
même. Je te donne un point, maintenant il me faut le joueur.
Voilà. Et en 2009...
Je suis complètement perdu.
Petit indice,
j'ai pas compris
c'est
du tout le.
Bah vas-y, il faut donner un indice encore.
Un petit indice, il est espagnol.
David Torres. Villa.
C'est David Villa. Voilà. Tu vois, t'avais pas compris, mais t'as quand même bien répondu. David Villa qui est avant le règne de Messi.
Comment ça se passe?
Mais le mec
Ronaldo.
Qui a mis le plus de buts dans quoi? Dans la saison en championnat?
Dans l'année 2017.
Une année civile.
Sur l'année civile 2017.
Même pas une saison de football.
Kane, ce que vient de faire Harry Kane en 2017.
Et donc il y a un point pour moi de toute façon.
Allez, cette année, en
un
équipe
point,
de France.
Un point pour nous, Jérôme. Un point pour nous.
Ah, non, attends.
Je vais t'expliquer comment ça se passe. Le plus dur, c'était de trouver David, c'est pas de tomber au cul de bol sur une année.
Et après, normalement, c'est à moi de répondre.
Bon.
Mais non, mais déjà, t'as balancé 2009 comme ça au hasard.
Un partout. Cette saison, en équipe de France, quel est le joueur français? Enfin, cette saison, cette année, en 2017, donc, en équipe de France, quel est le joueur français qui a été le plus utilisé? Il a joué pendant 900 minutes.
Griezmann.
C'est non.
Giroud.
Non.
Umtiti.
Bonne réponse de Daniel.
Allez.
2-1 pour Daniel et Kevin face à Jérôme et Laurent.
Sois plus clair dans tes questions.
C'était très clair.
C'est vrai, j'ai du mal, quoi. À chaque fois, je mets un petit bout de temps dans
ça. C'est incroyable.
Avec 8 buts.
Articule.
Olivier Giroud est le meilleur buteur en équipe de France en 2017. Mais qui est le meilleur passeur?
Griezmann.
Non.
Lemar.
Non.
Il doit avoir 2 passes à peine, hein, qui nous embrouille.
Il en a 3.
Tolisso.
Payet.
Non. C'est ni Tolisso, ni Payet.
Sidibé.
Sidibé, c'est non.
C'est Mendy.
Il a été au cœur du mercato l'été dernier.
Matuidi.
Non.
Pogba.
Non. Au cœur du mercato, les gars.
au cœur du mercato.
Ah bah oui, j'ai le mercato.
Bah du mercato, mercato estival.
Mbappé.
Voilà.
Ah c'est Mbappé le meilleur passeur.
Il n'a pas été au cœur du mercato.
C'est un scandale.
Trois passes décisives en 2017. Sur l'année 3-1 pour Daniel et Kevin face à Jérôme et Laurent. Sur l'année 2017.
Ouais, ça triche tout ça.
Combien de matchs le PSG a-t-il perdu au Parc des Princes sur l'année 2017?
Un seul contre en fin de saison dernière.
Zéro.
3.
0. Bonne réponse 4. De Jérôme Rotten.
Qu'est-ce qu'ils sont
zéro.
Pas
un seul match perdu.
Ils ont pas perdu au Parc des Princes.
0 sur l'année civile en 2017, Daniel.
Mais oui.
Sur l'année
Daniel,
civile, c'est 0 défaite pour le PSG.
Mais Rennes, c'était quand la saison d'avant?
Rennes, oui.
C'était l'année d'avant.
Mais 2 ans.
Allez, dernière question. Ça fait 3-2 pour. Enfin, dernière ou pas d'ailleurs.
Daniel
et Kevin qui mettent 3-2 face à Jérôme et Laurent. Cavani est le joueur le plus utilisé avec 53 matchs au Paris Saint-Germain en 2017. Mais qui sont les deux autres joueurs qui complètent le podium?
Verratti.
Sur l'année 2017, donc.
Verratti.
Toujours l'année 2017.
Rabiot.
Rabiot, c'est qui a dit Rabiot?
Laurent.
C'est Laurent. Ça fait
Cavani,
un point pour
Marquinhos.
Rabiot. Il en manque un autre.
Arrêtez.
Thiago Silva.
Non. Celui qui le donne a gagné là.
Celui qui donne a gagné.
Ouais. Indice, il a été au cœur.
Di Maria, Verratti,
Thiago Motta. Récent.
Verratti.
Non.
Di Maria, Lucas.
Non.
Non, monsieur.
Mais c'est quoi de l'année 2017
d'outre-Rhin?
Draxler.
Draxler. Mario Draxler, Daniel et Kevin.
Ouais, là, c'est juste de.
Qui s'impose. Qui
a 3
points.
Cette victoire ne me plaît pas du tout.
Allez, merci et félicitations à Kevin.
Ton quiz. Il est nul à chier.
Tu sais à qui t'en référer. 23h59.
C'est William Cyprien.
On se retrouve demain dans l'after à 22h. Merci Daniel Riolo. Merci Jérôme Montel.
Après-midi pour
si vous voulez aller faire la révolution, c'est là-bas. Je vous invite à sortir.
Moi, je trouve que Cyprien a bien bossé sur ce quiz. C'est nous qui n'avons pas vraiment compris les questions.
Voilà.
Je dois dire.
Allez, à demain dans l'after.
Sur les questions.
RMC, le super football show, l'after foot.